Alors nous avons ici dans le passage de ce matin deux attitudes opposées. Nous avons l'attitude d'un homme profondément religieux, d'un homme moral, et de l'autre côté, nous avons l'attitude d'un homme profondément irreligieux, d'un homme immoral. Nous avons d'un côté le pharisien. Le pharisien, il suit les règles des 10 commandements. Il n'est pas injuste, il n'est pas adultère, il donne la dîme de tous ses revenus. Cet homme est un parfait religieux. Et de l'autre côté, nous avons le collecteur d'impôts. Alors, dans la Palestine du 1er siècle, le collecteur d'impôts, c'est d'abord un collabo. Vous savez, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le collecteur d'impôts, il travaille avec l'ennemi, avec l'occupant. Il travaille avec les Romains. Mais cela va encore plus loin, donc il collecte les impôts. Mais il en profite, quand il collecte les impôts, pour s'en mettre plein les poches. En fait, il profite de la situation pour s'enrichir. Et donc, on peut difficilement imaginer quelqu'un de plus crapuleux. Alors, imaginez-vous un instant dans le public, en train d'écouter Jésus parler, en train de l'écouter dire sa parabole. Donc, il commence par décrire le bon pharisien, celui que tout le monde dans le public considère comme un modèle, l'exemple à suivre, celui qui respecte la loi de Dieu. Et ensuite, il décrit le collecteur d'impôts, l'exemple même de la crapule. On peut difficilement trouver une personne plus détestable dans toute la Palestine. Imaginez le scandale que provoquent les paroles de Jésus parmi la foule. Devant Dieu, la personne morale est perdue, elle est bonne pour la perdition. Et de l'autre côté, l'exemple même de l'immoralité, le mafieux, le voleur, lui est justifié, c'est-à-dire qu'il est accepté par Dieu, il a sa part dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver une affirmation plus scandaleuse ? Alors on pourrait laisser ce texte de côté, se dire qu'on a mal compris. Si c'était la seule fois où Jésus renversait les valeurs, où celui qu'on croit bon est rejeté, et celui qu'on croit mauvais est accepté. Mais seulement, ce n'est pas la seule fois dans les évangiles. Parfois, l'évangile nous bouscule, comme si Jésus voulait nous faire rentrer quelque chose dans la tête, quelque chose qui est dur à accepter et à comprendre naturellement pour l'homme. On va donc essayer d'étudier le texte plus en détail. On va commencer par regarder l'attitude du pharisien, et puis ensuite, on va regarder l'attitude du collecteur d'impôts. Et ensuite, dans une dernière partie, on va voir ce qu'on peut tirer aujourd'hui dans notre quotidien de ce texte. Et la question qui va servir de trame à la prédication qui va suivre est la suivante. Dans quoi mettons-nous notre fierté ? Et surtout nous, ceux qui se disent chrétiens parmi nous, en quoi mettons-nous notre fierté ? Et on va donc commencer par nous pencher sur le cas de ce pharisien dans ce texte. Alors on a coutume de dire que les pharisiens sont des hypocrites. Mais là, dans ce passage, il n'a pas l'air d'un hypocrite, ce pharisien. Il a tout d'un homme sincère, il pense vraiment faire le bien. Il respecte la loi, il n'est pas injuste, il ne trompe pas sa femme, il donne la dîme. Voilà un homme que l'on peut qualifier de bon par rapport à la loi de Dieu. Cet homme est moralement bon. Mais alors, qu'est-ce que Dieu peut bien lui reprocher ? Eh bien, deux choses qui sont liées entre elles. Et ces deux choses, en fait, on les voit au verset 9. Il met sa fierté en lui-même, et de là vient son mépris pour les autres. Il met sa fierté en lui-même, et de là vient son mépris pour les autres. Donc regardez au verset 9, nous voyons que cette parabole s'adresse aux gens qui ont ces défauts. Pour certains qui étaient persuadés d'être justes, C'est-à-dire, il est persuadé d'être juste, il met sa fierté finalement dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, et qui méprisait les autres. Il dit encore cette parabole. Alors pourquoi est-il persuadé d'être juste? Eh bien, parce qu'il met sa fierté en lui-même, dans ce qu'il fait, lui. Le pharisien est très fier de lui. D'ailleurs, si on lit le texte, on voit qu'il ne cite Dieu qu'au début. Il cite Dieu pour le prendre à témoin de combien il est bon. Et ensuite, c'est « je ». Dieu est ici le témoin passif, le témoin passif de l'excellence du pharisien. Il respecte les règles. Et pour lui, c'est justement le fait de respecter les règles qui va faire qu'il va être accepté par Dieu. Et les pharisiens, effectivement, avaient une haute exigence de pureté, à tel point que respecter les règles de la Torah ne leur suffisait pas. Ils allaient jusqu'à rajouter encore des règles pour être encore plus purs, si bien qu'ils étaient vus par les autres comme des religieux très saints. C'était une haute caste religieuse. Et finalement, pour eux, c'était le fait de suivre la loi de l'Ancien Testament. C'était les œuvres méritoires, les actions que l'on fait extérieurement qui assurent d'être bien vues, qui assurent d'être acceptables aux yeux de Dieu. Pour ces pharisiens, plus on respecte les règles, plus on est pur aux yeux de Dieu. Mais seulement, il y a un problème avec le raisonnement des pharisiens. Et le problème, c'est que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux œuvres extérieures, il regarde à l'intérieur, il regarde à notre cœur. Et on sait par exemple que l'adultère commence dans le cœur. Et là, personne n'est pur, pas même un seul. Tous les hommes sont pécheurs devant Dieu, et moi le premier. Le pharisien n'a donc pas de raison d'être fier de lui-même, parce qu'au niveau du cœur, il n'est pas meilleur que les autres. Et finalement, tout ce qu'il fait matin, midi, soir, pour s'accorder les bonnes grâces de Dieu, il le fait pour lui-même. C'est purement égoïste. Et on voit cela plus précisément par la suite, puisqu'il méprise les autres. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ou encore comme ce collecteur d'impôts. » Ce pharisien est très fier de suivre la loi de Dieu. Mais on le voit, il méprise les autres. Et la triste ironie dans ce texte, c'est qu'en méprisant les autres, il est en train de briser le commandement principal de la loi. En méprisant les autres, il brise le commandement principal de la loi qu'il essaye pourtant de suivre de toutes ses forces, matin, midi et soir. Et le commandement principal de la loi de Dieu, c'est le suivant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, par son mépris des autres, il désobéit au commandement principal et donc à toute la loi. Alors, est-ce que les pharisiens sont les seuls à avoir une attitude de mépris? N'avons-nous pas tous tendance, quelque part, à mépriser ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas de notre groupe? Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres hommes, comme ces hommes politiques corrompus, comme ces sportifs dopés, comme ces banquiers irresponsables, comme ces SDF fainéants. Et cela n'est pas propre à l'attitude du religieux. On a tous tendance à mépriser ceux qui sont différents de nous. Mais le problème est que cette tendance peut se retrouver aussi dans l'Église, comme ailleurs. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des Français, qui sont rapaces, injustes, adultères. Ou encore que je ne suis pas comme mon voisin de la maison d'à côté, qui ne va pas à l'église, et qui, au lieu de cela, s'avachit dans son canapé le dimanche matin et regarde téléfoot. Moi, je vais à l'église tous les matins, je lis ma Bible régulièrement, je vais même à l'étude biblique en semaine. Ô Dieu, tu vois bien que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont si méchants. On dit cela, mais en même temps, parfois, en tout cas je parle pour moi-même, on l'envie, celui qui regarde téléfoot le dimanche matin, tranquillement dans son fauteuil. Est-ce qu'il n'y a pas de l'hypocrisie dans tout cela? Voilà pour le religieux. Mais maintenant, prenons cette personne irreligieuse qui est avachie dans son fauteuil. Au fond, est-ce que son attitude, bien souvent, n'est pas comparable à celle du religieux ? Ah, mais de toute façon, le bon Dieu, s'il existe, il ne peut rien me reprocher, moi. Je ne fais rien de mal. Je ne vole pas, je ne tue pas. Je donne au Téléthon une fois par an. Non, décidément, si le bon Dieu existe, il ne peut rien me reprocher. Au fond, la personne irreligieuse a le même problème que la personne religieuse représentée par ce pharisien dans ce texte. Elle met sa fierté dans ses actions extérieures. Elle est très fière d'elle-même. Que ce soit pour le religieux ou l'irreligieux, tout cela ne nous réconcilie pas avec Dieu. Le drame, c'est qu'on ne peut pas être accepté par Dieu en suivant des règles. Le péché est trop grave. Parce que le péché, c'est d'abord se faire sa propre idole. C'est mettre sa fierté en soi-même. Le péché, c'est d'abord l'orgueil de l'homme. Se faire sa propre idole. Et mettre sa fierté en soi-même, cela nous mène à une attitude de mépris. Une attitude de mépris qui nous amène à désobéir à toute la loi de Dieu, qui se résume donc ainsi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc un rappel sur la question qui nous préoccupe ce matin. En quoi mettons-nous notre fierté, nous chrétiens ? Si on met sa fierté dans le fait de suivre la loi, on ne peut pas être accepté par Dieu. On peut être accepté par son groupe, par son église peut-être, mais pas par Dieu. La loi, elle est d'abord là pour nous faire réaliser à quel point on est incapable de la suivre. Parce qu'on est toujours rattrapé, à un moment ou à un autre, par notre orgueil qui nous empêche d'aimer Dieu et qui nous empêche d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On peut peut-être même voir ça avec l'exemple du pharisien. On va certainement voir beaucoup de pharisiens autour de nous et on va se dire « Oh Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme ces autres pharisiens. » Mais est-ce que ce n'est pas pharisien en soi-même de dire ça ? Donc finalement, le péché nous rattrape toujours. On est toujours dans la spirale finalement de notre orgueil qui nous compare aux autres. Alors si ma prédication s'arrêtait là, ce serait un petit peu pessimiste, mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Nous allons maintenant voir l'attitude de ce collaborateur, de ce collecteur d'impôts. On voit qu'il y suffit d'une phrase pour finalement être en paix avec Dieu. Le pharisien, lui, aura passé sa vie à faire des purifications rituelles, à faire attention à ce qu'il mange, à faire des prières, à donner son argent, etc., etc. Imaginez cette vie passée dans les œuvres, une vie à refaire, à faire et à refaire des œuvres pour plaire à Dieu, pour s'accorder les bonnes faveurs de Dieu. Et résultat, il n'est pas accepté. Maintenant, nous avons ce collecteur d'impôts, ce mafieux. Il dit une phrase et il est en paix avec Dieu. Pourquoi donc ? Eh bien d'abord, il a conscience de son péché. On le voit dans son attitude et dans ses paroles. Ce péager est triste. Il est effondré par son péché. Il ressent le vide au fond de lui, le remords. Il est triste, il est effondré. Il a conscience de toute la dette qu'il a envers Dieu, de tout le poids de son péché, de ses fautes, de ses mensonges, de ses vols qu'il porte sur son dos. Et certainement qu'à ce moment-là, il se demande bien comment il serait possible que Dieu lui pardonne tout cela. Car il se considère bien, comme l'apôtre Paul, comme le dernier des pécheurs. Ensuite, il a conscience de la sainteté de Dieu. Dans son attitude, on voit qu'il a conscience du gouffre qui le sépare de Dieu. Dieu n'est pas un copain à qui on tape dans la main. Il se tient à distance du lieu de prière. Il n'ose pas s'approcher trop près de la présence de Dieu. Il n'ose même pas lever les yeux. face au Dieu saint, face au Dieu tout-puissant, face au Dieu juste et glorieux qui ne peut supporter le mal, eh bien, il se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux. Mais malgré tout le poids de son péché, malgré la conscience qu'il a de la distance qui le sépare de Dieu, il ose s'adresser à lui dans des mots très simples. « Prends en pitié le pécheur que je suis. » Et Dieu lui pardonne. Et Dieu vous pardonne, car il est écrit dans la première épître de Jean, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Mais alors, comment un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, peut pardonner, peut effacer les fautes? Nous savons aujourd'hui que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ, celui-là même qui est en train de raconter cette parabole. C'est Jésus qui a pris ses fautes sur la croix, les fautes de ce collecteur d'impôts, et aussi nos fautes si nous sommes repentants devant lui. C'est lui qui a payé à la place de ce collecteur d'impôts. C'est lui qui a payé le prix que méritait le criminel. C'est lui, c'est Jésus-Christ, qui nous rend libres. Jésus n'a pas cherché à être accepté par les hommes, comme les pharisiens. Il s'est mis au rang du collecteur d'impôts. Il s'est mis aussi bas que lui, comme un criminel qu'on méprise. Et il a pris sur lui les fautes de ce criminel. Il a payé à sa place pour ses péchés. Et nous avons donc la réponse à notre question. Où mettons-nous notre fierté, nous chrétiens? Eh bien, dans la grâce de Jésus-Christ, dans le don gratuit de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ est suffisante. Voilà en quoi nous devons mettre notre fierté. Alors, nous avons vu l'exemple du pharisien. Nous avons vu l'exemple du collecteur de taxes. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de nous aujourd'hui? En particulier pour nous qui nous disons chrétiens, quelle attitude avons-nous face à Dieu? Sommes-nous des chrétiens comme le pharisien ou comme le collecteur d'impôts? Je pense que nous pouvons voir dans cette parabole un risque pour notre vie chrétienne. L'expérience du collecteur d'impôts, l'expérience de repentance, nous l'avons certainement faite dans notre vie. Et nous nous considérons comme étant chrétiens depuis cette expérience. Mais une fois cette expérience faite, en avançant dans la vie chrétienne, nous risquons de nous retrouver dans l'attitude du pharisien. C'est si naturel pour l'homme d'être bien dans un groupe et de mépriser les autres qui n'y sont pas, que ce soit au travail, dans notre quartier ou même dans l'église. C'est si facile de mettre notre fierté dans nos œuvres, de se croire bon sans reproche, parce qu'on fait tout bien dans l'Église, parce qu'on fait tout bien dans notre vie. Et c'est si facile, si naturel de mépriser les autres, parce qu'on met notre fierté en nous-mêmes. Et le problème dans tout cela, c'est de penser la vie chrétienne comme suit. J'ai reçu la grâce, maintenant je suis chrétien, maintenant je suis dans les œuvres. Mais aujourd'hui encore, c'est par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes transformés par Dieu. Si nous nous lassons de nous considérer comme des pécheurs face à Dieu, si nous nous lassons de la grâce de Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous n'avons pas pris la mesure du problème de ce qui nous sépare de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est d'abord notre orgueil. L'orgueil, c'est la base du péché contre Dieu. Être notre propre idole, être comme le pharisien, content de nous, par nos œuvres. Il ne faut jamais oublier que c'est Jésus-Christ qui nous sauve, mais c'est aussi lui qui nous fait grandir aujourd'hui par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, notre Maître dans notre vie. L'expérience du collecteur d'impôts, de repentance pour nos péchés, devant la croix de Jésus-Christ, c'est tous les jours que nous devons la faire, pour nous empêcher de mettre notre fierté dans nos œuvres. Et le mot de repentance aujourd'hui, Si on va dans la rue, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va connaître ce mot, qui va savoir ce qu'il y a derrière. Il va certainement même avoir un côté péjoratif. Sous la repentance, c'est la culpabilité, c'est négatif, c'est triste. Il faut être positif dans la vie. Mais la repentance, ce n'est pas quelque chose de triste. Pour le chrétien, la repentance, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui nous enterre, mais au contraire, c'est quelque chose qui nous relève, parce que Jésus-Christ nous délivre. « Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En nous repentant, nous laissons Jésus agir dans notre cœur et nous transformer. C'est Jésus qui nous transforme de l'intérieur par sa grâce. C'est Jésus qui nous transforme de l'intérieur et nous donne les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et on le voit avec l'exemple du pharisien, on ne voit pas d'amour en lui. Il est incapable d'obéir à la loi de l'amour, parce que le problème est dans son cœur. Et la foi chrétienne va de l'intérieur du corps, va à l'intérieur, va du cœur vers l'extérieur. C'est ce qui la différencie avec les religions qui essaient de faire plein d'œuvres extérieures, comme ce pharisien, pour changer le cœur de l'homme. Mais ça ne marche pas, parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est Jésus-Christ lui seul qui peut changer notre cœur. Et c'est un processus qui dure toute une vie. C'est pourquoi nous devons toujours revenir au pied de la croix de Jésus et lui demander pardon pour nos péchés, pour qu'il nous transforme de l'intérieur. Il faut prendre la mesure de la grâce, c'est la grâce qui est un don gratuit. Et nous avons vu l'arrogance du pharisien. Et sommes-nous arrogants dans notre vie chrétienne? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par la grâce, un don totalement gratuit. Nous ne le méritons pas. Nous n'avons aucun mérite. Nous sommes finalement aussi mauvais que ce collecteur d'impôts. Il est bien marqué car personne n'est juste. Pas même un seul dans Romains. Nous ne sommes pas meilleurs que lui, au fond. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par un don totalement gratuit. Et nous sommes totalement dépendants, aujourd'hui encore, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons donc aucune raison de nous vanter, de faire les fiers, de faire les malins, de nous croire supérieurs aux autres. Nous n'avons aucune raison de faire le fier. Mais notre fierté, toute notre fierté, nous la mettons en Jésus-Christ. Et gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Et je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu t'es révélé à nous personnellement. Et Seigneur, nous savons que nous ne méritons pas ta grâce, que c'est un don totalement gratuit. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons être dans la repentance face à toi, Seigneur. Parce que aujourd'hui encore, nous sommes orgueilleux, nous mettons souvent notre fierté dans ce que nous faisons et nous pensons toujours nous en sortir par nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons toujours être dépendants de toi, Seigneur, dépendants de toi et de ta grâce pour que tu nous transformes par ta parole, pour que tu nous transformes par ton esprit. Et que nous puissions vraiment te ressembler, Seigneur, et porter du fruit, porter du vrai fruit, Seigneur, les fruits de l'Esprit, et pour ta gloire et ta gloire seule. Et nous voulons mettre notre fierté et toute notre fierté, Seigneur, en toi, en ton nom, mettre notre fierté en Jésus-Christ, qui nous a sauvés sur la croix et qui nous transforme aujourd'hui pour nous préparer toujours plus à te voir face à face, Seigneur, pour nous préparer toujours plus à l'espérance de te voir un jour, l'espérance de la gloire, Seigneur, pour l'éternité. Amen.